Content de pouvoir apporter la parole. Merci pour la louange. Alléluia. C'est bon de louer notre Dieu. Hier, on a eu un atelier sur la louange. J'avais des gens de l'église d'Edmundston, du Life Reach, et on était connectés avec l'assemblée de Rimouski. Ça fait qu'on avait en direct, il y avait Sandra Kouame, qui de l'église Nouvelle Vie à Longueuil, simplement, qui était la conférencière. Et on a passé la matinée et une partie de l'après-midi ensemble, et je crois vraiment que vous avez été bénis. J'ai été béni, moi, de ma part aussi. Voyez-vous, je ne me considère pas quelqu'un qui, simplement, qui va diriger, disons, la louange. Si vous voyez ça un jour, c'est vraiment le miracle de Dieu, mais ce n'est pas le don. Mais on est tous appelés à louer, par contre, le Seigneur Jésus. Amen. On est tous appelés à l'adorer et tout ça. Puis il y avait beaucoup de choses simplement que ça a fait du bien à mon cœur. Alléluia. J'aimerais qu'on, ce matin, et vous savez, toutes les fois que je viens, n'as-tu qui a emporté leur Bible ce matin? La parole de Dieu, yes. Amen. Je vais vous encourager et je vais continuer. Apportons la parole de Dieu avec nous. David dit, « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Il y avait une importance pour la parole de Dieu. Il aimait la parole de Dieu. Les Béréens dans le Nouveau Testament aimaient la parole de Dieu. Ils regardaient simplement les choses que Paul disait. Je comprends que les Béréens n'avaient peut-être pas tout le comme qu'on a aujourd'hui, mais ils suivaient simplement la loi qu'ils avaient à cette époque-là, la Torah. Mais ils suivaient ce que les apôtres disaient simplement. Et il y avait une attention particulière pour la parole de Dieu. Et je vous encourage à porter votre épée. Amen. Gloire à Dieu. Assez pour cela, mais je crois vraiment que c'est important. Ce matin, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans le livre de Lamentation. Dans le livre de Lamentation, chapitre 3, c'est la page 1124. le livre de Lamentation au chapitre 3, en passant, si tu arrives à la page 1124, c'est pas là. Cherche le livre Lamentation au chapitre 3. Lamentation, chapitre 3. Prendre le temps. Au verset 26. Lamentation, chapitre 3, verset 26. Je demande à quelqu'un qui lise avec sa voix de forte ce matin, juste de lire Lamentation 3, 26.
Il est bon
d'attendre de l'âge de la vie. Amen. C'est en duo, c'est en harmonie. C'est quoi le verset encore? Qu'est-ce que ça vous dit lorsque tu entends ce verset-là? Ça va être un petit peu interactif pour débuter ça, mais qu'est-ce que ça vous dit? Comment est-ce que ça te parle, toi? Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Quand tu prends pour de quoi? T'attends, tu ne te demandes pas.
Confiance qu'il va agir.
Quelqu'un d'autre? La délivrance est en chemin. Quelqu'un d'autre, peut-être? Il n'y a pas de mauvaise... La patience, oui. Nice. C'est bon. Oh, c'est bon. Quelqu'un d'autre? Il faut commencer à chialer. Ça, ça n'est bon. En silence. En révérence. Il fait tout ce qu'il a promis. Alléluia, c'est bon. Je répète ce matin ce que tu dis, ce n'est pas parce que je veux rajouter, c'est simplement que je veux faire la traduction et qu'ils l'entendent. Amen, c'est bon. Quelqu'un d'autre peut-être? Il est bon d'attendre en silence. Confiance. Amen.
Abraham a attendu longtemps, il a été béni.
Oui, Abraham a attendu longtemps, il a été béni. Oui, c'est vrai.
Attendre,
c'est très difficile pour la nature humaine. C'est-tu juste pour moi que c'est dur d'attendre?
Non.
Je pense que c'est peut-être pour nous autres, hein? Attends, peut-être pour Eliane, on va essayer. Ouais. Ce matin, on va parler. Merci, c'est bon. Et toutes les réponses sont oui et amen. Ce matin, on va parler sur le thème attendre le secours de l'Éternel. Attendre le secours de l'Éternel. Seigneur, je te remercie ce matin qu'on vient en tant que congrégation, on vient en tant qu'enfant de Dieu, on vient devant toi. Seigneur, je te prie de nous enseigner. On est tous dans le même bateau par rapport à cela. On le vit différemment, mais on est tous dans le même bateau. Et Seigneur, je te prie que tu puisses nous aider à attendre patiemment, comme on a entendu, le secours de l'Éternel. Et Seigneur, je te prie de prendre ces paroles, je te prie de les rendre vivants dans nos cœurs. Et Seigneur, que ça puisse pas juste être un message, mais que ça puisse être vraiment une nourriture qu'on digère ce matin, Seigneur, que ça puisse fortifier nos corps, notre esprit, notre homme spirituel puisse être encouragé ce matin au travers de cette parole, Seigneur, dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Attendre le secours de l'Éternel. J'ai une petite note ici qui se dit les caractéristiques exceptionnelles du grand prédicateur de la Nouvelle-Angleterre, Philip Brooks. Il était reconnu comme l'équilibre et qu'il n'y avait rien, qu'il était troublé par rien. Ses amis intimes, par contre, savaient cependant qu'il souffrait parfois de moments de frustration et d'irritabilité. Ça nous arrive tous un peu. Un jour, un ami l'a vu marcher d'un côté et de l'autre sans arrêter comme un lion dans une cage. L'ami lui dit, « Quel est le problème, Dr. Brooks? » Le problème, c'est que je suis pressé, mais pas Dieu. Voyez, des fois, tant qu'on est pressé, on fait des décisions, on fait des choix, et des fois, ce n'est pas des bons choix, ce n'est pas des bonnes décisions. Certainement que j'ai fait des décisions et des choix que, en cause de la pression, en cause des situations ou de l'incompréhension, qui n'étaient pas nécessairement la meilleure décision pour ma vie. On manque beaucoup de bénédictions parce qu'on n'attend pas. On est une génération qui ne veut pas attendre, mais je ne pense pas que c'est juste notre génération, parce que si dans le livre de Lamentations, ça nous parle simplement qu'il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel, je crois qu'eux aussi, même dans leur génération, qu'il y avait des gens qui sont eux aussi occupés, pressés, malgré qu'ils n'avaient pas l'Internet, qu'ils n'avaient pas les tablettes, qu'ils n'avaient pas Google, qu'ils n'avaient pas Facebook, qu'ils n'avaient pas Instagram, qu'ils n'avaient pas ça. Néanmoins, il y avait des choses qu'ils vivaient, et simplement, voyez-vous, être occupé, c'est pas dû au fait des choses que tu fais ou que tu fais pas. Voyez-vous, il y a plein de gens simplement qui font parfois rien, puis ils sont pressés comme. Puis souvent, c'est une attitude de cœur simplement. Ils ont rien à faire ou qu'ils font rien, mais qu'ils sont pressés tellement que ça se retourne là-dedans. C'est des busy. Ils sont pressés. Il y a des erreurs qu'on va regarder ce matin simplement, et j'ai pris qu'on puisse apprendre de ces choses-là. Il y a beaucoup de choses dans ma vie chrétienne que j'ai grandi beaucoup en observant les erreurs de quelqu'un d'autre. On dit souvent la sagesse vient d'une multitude de conseillers. Mais l'erreur peut devenir un conseiller si tu y portes attention. Si tu vois les erreurs dans ta propre vie, mais aussi les erreurs des gens autour de toi qu'on entend dire « Ah, moi, je ne ferai jamais ça. » Puis là, à un moment donné, on est des mêmes souliers que les autres. Mais l'erreur peut être vraiment un enseignant ce matin. Et la parole de Dieu, on voit, et c'est pour ça que j'aime la parole de Dieu, parce que ça ne nous montre pas juste les bons côtés de la vie, ou même du chrétien, ou de l'enfant de Dieu, mais ça nous montre aussi les mauvais côtés afin qu'on apprenne de cela. Voyez-vous, Saül, dans la parole de Dieu, je crois que c'est un bon exemple pour nous dans le sens à ce quoi pas faire dans certaines directions, quoi pas faire dans certains cas. Ça dit que Saül ne voulut pas attendre pour Samuel et il a fait le sacrifice. Une des erreurs parfois qu'on fait, on parle ce matin qu'il est bon d'attendre le secours de l'Éternel en silence, attendre pour le secours de l'Éternel. Et Saül, simplement, on voit ça dans la parole de Dieu. Pour ceux qui veulent tourner avec moi, 1 Samuel chapitre 13, verset 5. 1 Samuel chapitre 13, verset 5. Et apprenons de cela. Et j'ai appris de cela et j'espère que je vais continuer d'apprendre de cela. Voyez-vous, Samuel, dans la tente, a fait du compromis. Une des erreurs souvent qu'on fait dans la tente, c'est qu'on fait du compromis. Les Philistins, au verset 5, les Philistins s'assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient 1000 chars et 6000 cavaliers. Et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer. Ils vinrent camper à Michmash, à l'orient de Beth-Aven. Les hommes d'Israël se virent à l'extrémité, car ils étaient serrés de près. D'autres mots, ils étaient à bout. Et ils se cachèrent dans les cavernes, dans les buissons, dans les rochers, dans les tours et dans la citerne. Combien savent qu'à l'époque, les hommes d'Israël ne sont pas la lumière du monde à ce moment-là, ne sont pas le sel de la terre. Ils se cachaient des Philistins. Ils ne voulaient pas briller, ils se cachaient dans ces endroits-là. C'est-à-dire, il y eut aussi des Hébreux qui passèrent le Jourdain pour aller au pays de Gad et de Galaad. Saul était encore à Gilgal et tout le peuple qui se trouvait auprès de lui tremblait. Le peuple était paralysé par la situation. There was fear, il y avait des craintes, il y avait des inquiétudes. Et c'est souvent dans ces moments-là que dans les craintes, dans les inquiétudes, le timing, notre timing à nous autres, ça n'arrive pas dans notre temps à nous autres. Et c'est souvent dans ces temps-là qu'on fait des choix, des décisions, des coups d'appel, on fait des engagements, on se lie avec avec des personnes ou des choses comme ça pour s'apercevoir simplement que oh, j'aurais dû donc attendre. Verset 8, ça dit, « Ils attendirent 7 jours. Selon le terme fixé par Samuel, je m'en viens en 7 jours. Ouais, mais il n'est pas encore arrivé. Ouais, mais j'ai eu la promesse, il me l'a dit, et ça n'arrive pas. Mais Samuel n'arrivait pas à Gilgal et le peuple se dispersait loin de Saul. En d'autres mots, ça n'allait vraiment pas bien. Il me dit qu'il allait être là, il n'est pas là, puis tout le monde est en train de m'abandonner. C'est une bonne leçon ici en leadership. Qu'est-ce que tu fais sous pression? Le leadership dans nos familles, voyez-vous, on est des leaders, comme papa, maman, grand-papa, grand-maman. Tu es des leaders à ton emploi, avec tes amis, avec ton entourage. C'est une bonne leçon en leadership. Qu'est-ce que je fais sous la pression? Ça dit que Saul dit, c'est comme il y a une super de bonne idée tout d'un coup. Qui pense ça qu'il avait une bonne idée? Amenez-moi l'holocauste et les sacrifices d'action de grâce. Et il offrit l'holocauste. Je vais le faire, moi, le sacrifice. Je suis aussi capable que lui. en parlant de Samuel. Après tout, je suis le roi, j'ai tout ce qu'il faut, je sais comment le faire, j'ai déjà vu comment ça se faisait. Puis, c'est pas grave, c'est moi qui vais prendre la place. Voyez-vous, tu peux savoir comment faire les choses, tu peux avoir vu les choses dans le passé, mais ça n'appartient pas à toi de faire les choses. Tu peux savoir, même dans une église parfois, on peut savoir comment faire, puis des fois on peut avoir même des meilleures opinions, des meilleures façons de faire des choses et c'est correct de donner ton opinion, c'est correct de donner ton conseil, c'est correct de seulement de donner les choses comme ça, mais ça ne veut pas dire nécessairement que c'est à toi d'apporter le changement. Leçon en leadership. Leçon dans la parole de Dieu, je devrais dire, mais que le fait que je sais faire la chose ou le fait que je me sens capable de faire la chose ne veut pas dire que c'est appointé à toi de faire la chose. Et je pense une grande leçon lorsqu'on reconnaît que peut-être c'est à une autre personne de faire la chose, peut-être c'est à une autre personne simplement d'être là, ça doit être un autre, peut-être c'est au pasteur d'adresser ça, ah, ben moi je vais l'adresser. Ça y prend trop de temps avant de parler. Moi je vais en parler à tout le monde. Peut-être que tu as raison dans ce que tu as dit, mais ce n'est pas appointé à toi de parler. Peut-être que tu as vraiment raison, puis tu vois vraiment clair, puis tes yeux sont ouverts, puis que tu as raison. Jésus dit raison, oui. Puis tu as vraiment raison dans ta situation, mais que ce n'est juste pas appointé à toi de parler. Mais parlement que c'est appointé à toi de prier pour la situation. Je pense qu'on sauverait bien des problèmes si qu'on observerait ça. En passant, tout ce que je viens de dire, il n'y a rien de marqué dans mes notes, mais en tout cas, je trouve que c'est bon. Si vous ne l'enjoyez pas, moi je l'enjoye. C'est des choses qui sont importantes. Il dit, il offrit l'Holocauste comme il achevait d'offrir l'Holocauste. Voici Samuel arriva. C'est comme une injuste. Là, il arrive. Ça aurait juste attendu un peu plus, Saul. Et Saul sortit au-devant de lui pour le saluer. Samuel dit, « Qu'as-tu fait? » Saul répondit, comme ils savent, des fois, nous, on peut être super spirituel dans les choses qu'on dit. Ah, ne dites pas que tu n'as jamais été super spirituel, parce que moi, des fois, j'y étais, puis je suis certain que vous autres aussi, des fois, dans nos conversations, des choses comme ça. « Ah, comment ça va? Ah, ça va super bien! » Il n'y a rien qui me va dans notre vie. Puis, il me semble que Saul, il dit, lorsque j'ai vu que le peuple se dispersait loin de moi, que tu n'arrivais pas au thème fixé et que le Philistin était assemblé à Micmac, et c'est probablement le commencement du McDonald's, Big Mac, Micmac, je me suis dit, les Philistins vont descendre contre moi à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. C'est alors que je me suis fait violence. En d'autres mots, j'ai fait le sacrifice et là, j'ai dû me parler, puis j'ai dû me consacrer, puis j'ai dû vraiment, je me suis fait violence. J'ai payé le prix vraiment. Et que j'ai offert l'Holocauste. Faites la chose qu'il n'aurait pas dû faire. Combien ça qu'on peut se justifier des fois dans nos actions? On se justifie par les choses que, après tout, j'ai raison. Voici la situation, l'ennemi est là, ça va pas bien à shop. Le problème n'est pas réglé, l'ennemi est encore là. Ben après tout, je vais le régler, moi, le problème. Je vais vous montrer la gang comment régler le problème. Comment ils savent que ce n'est pas une bonne attitude? Je suis le roi, je suis la personne en... Une leçon en leadership. Je me suis dit, ils vont descendre contre moi à Gilgal, et je n'ai pas cherché l'Éternel. C'est alors que je me suis fait bien. Samuel dit à Saul, tu as agi en insensé. En d'autres mots, you're a fool. T'es stupide. Tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait ordonné. En d'autres mots, Saul, ce n'était pas à toi. Le sacrifice, c'est à moi de l'offrir au Seigneur. J'étais ordonné par le Seigneur d'aller dans cette direction-là. Et tu le savais, c'était ça que la direction. C'est pas à toi en tant que roi. L'Éternel aurait affermi pour toujours ton règne sur Israël. Et maintenant, ton règne ne durera point. Wow, combien savent que des fois, nos agissements peuvent avoir des conséquences. On n'aime pas parler de ça, mais c'est la réalité de la vie chrétienne aussi. Nos agissements ont des conséquences. Merci Seigneur que oui, il y a du pardon, oui, il y a de la réconciliation, oui, il y a de la restauration, oui, simplement que je suis lavé dans le sang de Jésus. Mais voyez-vous, même David, simplement après avoir agi de telle façon d'avoir tué l'adultère et toutes les choses, même après avoir tout fait ça, c'était l'homme selon le cœur de Dieu, il était pardonné, Dieu était avec lui d'une façon puissante, mais combien savent qu'il y a eu des conséquences? Même dans sa famille, dans sa conséquence, au travers des choses qui se sont passées, qui sont dues directement en cause des il n'a pas attendu. Ton règne ne dure point. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur, en parlant de David, et l'Éternel l'a destiné à être le chef de son peuple parce que tu n'as pas observé ce que l'Éternel t'avait commandé. On parle d'apprendre des erreurs ce matin, des erreurs qui nous enseignent, qui nous parlent des choses. Il dit, et on saute au verset 19 maintenant, ça dit, « On ne trouva point de forgeron dans tout le pays d'Israël, car les Philistins avaient dit, « Empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. » En d'autres mots, les Philistins ne voulaient pas que le peuple de Dieu ait son épée. Hello, ça sonne-tu quelque chose ce matin? L'ennemi qui ne veut pas que le peuple de Dieu ait son épée, la parole de Dieu qui est une épée à double tranchant. Jésus dans l'Apocalypse, c'est une épée sortait de sa bouche qui représente la parole de Dieu, il est la parole de Dieu. Il disait, empêchons les Hébreux de fabriquer des épées ou des lances. Et chaque homme en Israël descendait chez les Philistins pour aiguiser son soc, son oyo, sa hache, sa bêche. Quand le tranchant des bêches, des oyo, des tridents et des haches était émoussé, et pour redresser les aiguillons, c'est là qu'il allait voir les Philistins. C'est-à-dire qu'il arriva, écoutez bien ça, verset 22, « Il arriva qu'au jour du combat, il ne se trouvait ni épée ni lance entre les mains de tout le peuple. » Au jour du combat, il n'y avait plus d'épée entre les mains du peuple de Dieu. Oh Seigneur, qu'on puisse retrouver nos épées, qu'on puisse retrouver la parole de Dieu, se plonger dans la parole de Dieu, de s'équiper dans les choses de Dieu, dans la parole, que la parole de Dieu puisse être en abondance parmi le peuple de Dieu. Alléluia. Que la parole de Dieu puisse diriger nos pas. Et pas juste ça, que la parole de Dieu puisse nous transformer, nous changer à l'image de son Fils Jésus. Voyez-vous simplement, si que... Dans l'attente, simplement, parfois, on peut faire du compromis. Et c'est ce qui est, avec Saül, ce qu'on regarde dans sa vie, c'est vraiment, il y a un compromis qui est là, simplement. Il a baissé ses standards. Il y a aussi dans l'attente, parfois, apprenons d'être ça, ce qu'on apprend de l'erreur du compromis. Apprenons qu'on oublie ses œuvres. On oublie ses œuvres. Le peuple qui était libéré de l'Égypte et après avoir passé la mer Rouge, toute la situation lorsque le peuple a été libéré 400 ans en Égypte, là, ils passent la mer Rouge et là, dans le psaume 106, 12, vous avez la chance de tourner avec moi, psaume 106, 12. On parle toujours, apprenons de nos erreurs, apprenons de ces erreurs-là simplement, afin qu'on puisse atteindre le secours de l'Éternel. Psaume 106, 12, ça dit, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. En d'autres mots, ils venaient juste de passer la mer Rouge, ils venaient juste d'expérimenter la délivrance, ils venaient juste d'expérimenter la victoire en Dieu, simplement libérer les chaînes brisées, les chaînes de l'Égypte sont à briser 400 ans en esclavage. Et ça dit, ils crurent à ses paroles, ils chantèrent ses louanges. On voit ça tout de suite après, on voit que Myriam, simplement après qu'il passe le peuple de la mer Rouge, qu'une célébration de louanges, une journée de louanges comme incroyable, simplement, que Myriam, avec sa tambourine et tout ça, et toutes les autres femmes, commencent juste à louer, à danser devant le Seigneur et tout ça. Ça dit, ils crurent à ses paroles, ils chantaient à ses louanges, Mais tout de suite après, verset 13, il me semble que c'est vite, il n'y a pas... On parle d'attendre. Mais ils oublièrent bientôt ses œuvres. Wow. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Ils furent saisis de convoitise dans le désert, ils tentèrent Dieu dans la solitude. Ils ont vu tout ça, et ils ont vu tout ce que Dieu avait fait au milieu d'eux. Ils ont vu toute la grandeur de Dieu, la majesté de Dieu. Ils ont vu tous les Égyptiens qui ont été engloutis dans un moment, la mer qui se renferme, toute l'armée de l'Égypte, simplement qui est détruite simplement par la main de Dieu. Ils ont vu ces choses-là, mais c'est qu'ils ont oublié bientôt ses œuvres. Ils n'attendirent pas l'exécution de ses desseins. Attention à ce qu'on n'oublie pas ses œuvres dans nos vies. Est-ce que le Seigneur fait des grandes choses dans ta vie? Amen. Je pense qu'on s'assiera, chacun d'entre nous, on aurait des belles histoires à raconter. Mais des histoires vraies, là. Des histoires que comment est-ce que le Seigneur a nous changer, nous transformer, puis des choses qu'il a faites qu'on ne s'attendait jamais, puis des guérisons, puis des restaurations, puis des pardons, puis comment est-ce qu'il nous a touchés. Puis on aurait des belles... Hey, ça serait-tu pas quelque chose d'avoir les miracles de Dieu à l'Église chrétienne de Pentecôte? Tome 1. Comment de livres qu'on en aurait, vous pensez? Ah, probablement qu'on en aurait plusieurs. Des shows, des histoires. Chapitre 3, Madame Annette Boucher. Chapitre 4, Gordon. Chapitre 30, Cook. Roger C. Hey, voyez-vous, ça ferait vraiment un livre incroyable. Les choses que Dieu a faites dans chacune de nos vies et dans ma vie, simplement, on lirait ça, on dirait « Wow! » Voyez-vous, souvent, on lit les histoires des autres. Qu'est-ce que fait Dieu a fait dans d'autres pays? Puis qu'est-ce que fait tout ça? Savez-vous que Dieu a fait des choses ici? Ah, oh, wow! Il a fait des choses, simplement, que les autres liraient. Si ça serait mis dans un livre, que les gens liraient, peut-être quelqu'un d'un autre pays, ou outre-mer, ou que ce soit l'endroit de l'Europe, il irait dire, « Wow! Dieu est certainement vivant au milieu d'eux! » Pourquoi? Parce qu'on pourrait écrire les œuvres de Dieu. Et c'est beau de se rappeler ça, parce que parfois, souvent dans l'épreuve du temps, dans l'attente, souvent, on voit juste les mauvaises choses, on voit juste les choses, simplement, « Ah! » On est irritable. Mais c'est bon de se rappeler les œuvres, la grandeur, la majesté de Dieu. Comment est-ce que le Seigneur m'a libéré, il a brisé des chaînes dans ma vie? Comment est-ce qu'il a brisé des addictions, une façon de penser, des raisonnements? Comment est-ce qu'il a restauré des relations que, humainement parlant, c'était impossible, mais Dieu était dans l'affaire, puis là, il vient mettre de la guérison dans la restauration. Vous savez que... Amen. De ne pas oublier ses œuvres. Et c'est important qu'on puisse apprendre de cela, de ne pas oublier les œuvres de Dieu dans ma vie. Et lorsque l'ennemi vient pour te décourager, t'accabler, même si tu es dans une période d'attente ce matin, rappelle-toi des œuvres de Dieu dans ta vie. Peut-être même des écrits, peut-être c'est temps de sortir un petit calepin ou un cahier, puis juste marquer. Hey, je pense que ça serait une bonne idée, ça. Va au dollar store, c'est que une pièce. Puis si tu ne l'as pas, viens nous voir, on va la donner gratuitement, on va te donner un cahier. Mais juste marquer peut-être, si tu es dans une saison comme ça, commence juste à marquer tout ce que Dieu a fait dans ta vie depuis ta nouvelle naissance. Commence juste à marquer les choses. Comment est-ce qu'il t'a secouru? Comment est-ce qu'il est intervenu? Comment est-ce qu'il a pourvu? Comment est-ce qu'il a apporté de la paix dans ton cœur? Puis même avant que tu commences le Seigneur, je sentais même qu'il était à l'œuvre, c'est juste que tu ne le voyais pas, mais il était à l'œuvre pareil, même avant que tu viennes à lui. Puis s'il y a des choses. Puis comment. Sais-tu qu'est-ce qui va arriver? Dans ton temps d'attente que tu peux être présentement dedans, ton cœur va être ancré. Ton cœur va être enraciné. Et tu vas devenir un cœur inébranlable, qui ne sera pas shifté à toutes les fois que quelque chose. Si qu'il y a un autre point, si qu'il peut, apprenons des erreurs, si que dans le compromis qu'il peut avoir des choses qu'on peut apprendre, si dans, lorsqu'on oublie ses œuvres, il y a aussi que, faisons attention que notre dévotion est shiftée. un bon nom français, shifter. Notre dévotion est détournée lorsqu'on parle d'idolâtrie. Dans notre temps d'attente, parfois, notre dévotion envers notre Dieu peut être shiftée. Et il faut porter attention à ça. J'aime l'image de l'idolâtrie. J'aime cette image-là lorsque le peuple, après avoir été dans le désert pour un certain temps, Moïse est sur la montagne, il reçoit les tablettes, on se souvient d'un peu ce contexte-là. Et là, le peuple qui attendait en bas. They missed it big time. Ils ont vraiment manqué leur coup. Ça aurait pu être quelque chose de tellement glorieux, tellement « wow ». Mais ils ont manqué. Ils ont manqué vraiment qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Et là, Moïse descend avec les tablettes, puis qu'est-ce qu'il voit? C'est le peuple est en train de… le party est pris dans place, mais ce n'était pas un party pour la célébration pour la grandeur et la majesté de Dieu. C'était un veau d'or que ça avait érigé, puis ils célébraient simplement le chiffre. Ça va shifter dans l'attente. Et ça, on peut porter attention à ces choses-là, parce que dans l'attente, lorsqu'on a à attendre des choses dans nos vies, on a tous à attendre, des choses comprises qu'on attend, kata, Seigneur et tout ça. Et là, dans l'attente, notre dévotion peut être shiftée, une dévotion aux choses du monde par opposition aux choses spirituelles. En d'autres mots, au lieu qu'il y ait une dévotion spirituelle envers notre Dieu, notre Seigneur, envers Jésus-Christ, soudainement, notre dévotion est plus vers les choses de ce monde. Même, être pratique ce matin, même dans l'attente d'un pasteur que Dieu a déjà planifié pour l'Église chrétienne de Pentecôte, parfois, on peut tomber dans ce piège-là que notre attention est shiftée, notre attention spirituelle commence à être shiftée vers les choses de ce monde. Parce qu'on est dans l'attente. Vous êtes dans l'attente. Simplement, ça fait un certain temps que vous priez, vous cherchez le Seigneur et simplement que le Seigneur apporte la bonne personne et là, dans cette période-là, parfois, on peut shifter, qu'on peut partir d'une attitude spirituelle, qu'on était en feu pour les choses de Dieu, qu'on était zélé pour Dieu et qu'on voulait, c'est lui qu'on voulait. Et soudainement, notre attention est shiftée, puis on commence à avoir une attitude mondaine. Ah ben non, ça n'arrive pas à personne, ça. Ça m'arrive, ça vous arrive. Il faut s'encourager constamment à shifter, à re-shifter, à avoir notre attention sur le Seigneur dans l'attente. Garder notre zèle, garder notre désir pour Dieu, garder simplement cet élan pour Dieu. Dire, ah, c'est difficile. Oui, je sais que c'est difficile. Mais il faut se parler. Il faut, Seigneur, donne-moi la grâce à garder cette flamme-là, Seigneur, que le désir pour les choses de Dieu puisse grandir. Et comment ça? On se garde dans la parole de Dieu. On se nourrit de la parole de Dieu. Moïse prenait du temps à descendre de la montagne. Le peuple s'est créé un veau d'or. Voyez-vous, simplement, on commence à louer Dieu selon nos standards et selon ce qui fait du sens. On accepte tout parmi le peuple de Dieu, ou dans nos vies, je devrais. On ouvre des portes à une sensualité et sexualité déréglée, dans l'attente souvent. Il y a plein de choses présentement qui sont acceptées, qui, même parmi le peuple de Dieu, que dans bien des années passées, jamais ça aurait été accepté. Lorsqu'on voit simplement que du pulpit, qu'on va accepter des hommes ou des femmes de Dieu simplement qui sont lesbiennes ou homosexuelles, puis c'est comme correct, puis c'est les autres qui vont enseigner le peuple de Dieu. Puis on voit tout le mouvement de LGBT, on a déjà parlé à un moment donné, mais c'est juste une réalité qui est là présentement dans notre monde simplement, que même c'est correct dans l'Église, que je peux vivre comme ça. Tous ces gens-là sont bienvenus dans le corps de Christ, sont bienvenus dans l'Église de Jésus-Christ. Oui, ils sont bienvenus et il faut les accepter dans le sens, il faut les aimer. Mais tu viens d'une façon, mais tu changes comme lui, il est. Tu viens d'une façon, comme qu'on a tous à un moment donné, on vient d'une autre façon, puis il faut, on vient avec tout notre bagage, tout notre passé et tout ça, mais alors qu'on vient dans sa présence, ça commence à nous transformer, à nous changer selon les concepts et les préceptes de la parole de Dieu, et on devient comme lui, et on commence à délaisser les choses de ce monde et tout ça. Mais lorsque ça devient normal, qu'on dit que c'est correct ces choses-là, il y a un problème, c'est qu'il y a un shift qui s'est passé, simplement, d'une spiritualité vivante vers une mentalité du monde. Vie sexuelle active qui est en dehors du contexte du mariage. L'immoralité sexuelle, la fornication, l'adultère, on ne parle pas de ces choses-là, on ne parle plus de ça, voyons. C'est plus à la mode. Tout le monde le font après tout. Mais c'est un chiffre d'une spiritualité qui était en feu, puis là, soudainement, on tombe. On n'est pas différent de ce qui se passait au bout de la montagne, alors qu'ils sont dans la tente pour la parole de Dieu. Ah, ben moi, l'adultère, moi, c'est pas moi, j'ai jamais fait ça. Savez-vous, l'adultère, souvent, c'est dans le cœur. C'est la convoitise pour un tel et un tel. Comment ça, qu'on peut être marié, qu'on peut être là, mais dans notre cœur? Jésus en parle de ça, vraiment, l'adultère du cœur, que c'est vraiment, déjà qu'on a, on est dans une relation, mais déjà, dans nos pensées, on peut être bien loin. On peut être déjà avec quelqu'un d'autre. Puis on peut avoir... c'est une réalité, c'est la vie chrétienne qu'on doit lutter. Et on doit parler de ces choses-là. On doit mettre ça à la lumière. Souvent, lorsque j'étais avec, on donne la formation pour la préparation au mariage et tout ça avec les jeunes couples et des couples qui sont un peu plus âgés aussi, qui juste la préparation au mariage, on parle de ces choses-là, des réalités qu'on doit se parler. C'est que des fois dans ton cœur que tu as une pensée par rapport au sexe opposé, mais mets ça à la lumière, dis « Hey, j'ai des luttes, peux-tu prier avec moi, chérie? » Avec Tania, c'est des discussions qu'on va avoir parfois, hey, puis d'un côté comme de l'autre, j'ai une lutte de ces côtés-là. Parce que voyez-vous, tout ce qu'on ne met pas à la lumière, c'est là que ça commence à avoir de l'emprise sur nous. Mais lorsque c'est mis à la lumière, qu'on peut prier ensemble, qu'on peut exposer ces choses-là, simplement, c'est que notre chiffre demeure sur le Seigneur au lieu des choses de ce monde, des passions de ce monde. Attendre, peut-être des synonymes d'attendre, c'est attendre avec impatience. À chercher avec patience, d'anticiper dans l'attente, t'anticipe, persévérer dans l'attente, continuer fermement, t'es ferme. C'est comme la chaloupe, ça va d'une direction, les vents, ça brosse, le bateau est shaké, mais tu t'en vas dans cette direction, tu es ferme dans ta direction. Continuer fermement, s'asseoir constamment à côté. Un peu lorsqu'on parle d'attendre, même dans le contexte biblique, c'est s'asseoir constamment à côté. Ouais, j'aime ça. À côté de qui? Je m'assois à côté de toi, Seigneur. M'asseoir constamment à côté, c'est attendre. Andrew Murray, c'était un pasteur africain des années passées, vraiment un homme de prière, il dit « Soyez assurés que si Dieu attend plus longtemps que vous ne le souhaiteriez, c'est uniquement pour rendre la bénédiction doublement précieuse. » Dieu a attendu 4000 ans jusqu'à la plénitude des temps avant d'envoyer son Fils. Notre temps et entre ses mains. Il vengera bientôt ses élus, il se hâtera d'appeler notre secours et ne tardera pas une heure de trop. Wow, c'est nice. Si qu'au travers de l'attente qu'on peut apprendre concernant peut-être des erreurs, des choses qui sont passées dans la parole de Dieu ou des gens et tout ça, par rapport au compromis, par rapport aussi à notre dévotion qui est shiftée ou oubliée ses œuvres, il y a aussi dans l'attente, il y a des choses, je crois, que c'est vraiment bénéfique, que c'est vraiment une bénédiction. Dans l'attente, il nous équipe. Dans l'attente, si tu es dans une saison d'attente présentement ce matin, il est en train de t'équiper. Mais Et les disciples ont expérimenté ça pour un temps, dans le sens qu'ils ont été équipés, mais pas à peu près. Comme ils savent que Dieu, tant qu'il équipe, il équipe pas à peu près. Quand j'étais plus jeune, simplement, moi, chez nous, Daniel Alain, il jouait du hockey et tout ça, mais moi, ma carrière de hockey n'a pas été bien longue. Moi, on m'avait tout équipé, on m'avait tout acheté de l'équipement et tout ça, tout ce qu'il faut pour aller. Et j'embarque sur la glace, je dérape, je tombe, puis je retourne, c'était fini. Elle m'avait équipé, j'aime le hockey en bottine, mais pour une raison ou pour une autre, le restant, c'était pas ma passion, c'était pas mon fort. Mais elle m'avait équipé pour le hockey. Mais voyez-vous, Dieu, il équipe aussi. Puis lui, il équipe, puis pas à peu près, puis t'es pas juste, c'est pas cheap ton équipement, là. C'est vraiment, c'est la top notch. C'est le meilleur de ce qu'il peut trouver. Et voyez-vous, et lorsque simplement qu'il dit à ses disciples dans le livre des Actes, chapitre 1, il dit, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que Dieu Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, quand Jean baptisait d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais il était sur le point de les équiper. Et probablement qu'ils ne réalisaient même pas, mais dans l'attente, Dieu est en train de les préparer. Puis il les préparait vraiment, ça devait prier dans cette place-là, il devait chercher Dieu, Jésus venait juste d'être enlevé et tout ça, il cherchait la promesse, il y avait une promesse qui s'en venait, il ne savait pas nécessairement à quoi s'attendre, qu'est-ce qui allait arriver, comment ça allait se passer et tout ça, mais le commandement était attendu et tout ça. Mais dans l'attente, Dieu est en train de les équiper et il les a équipés pas à peu près lorsque l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Et là, il a commencé à être des témoins, il a commencé à partager l'Évangile. L'Évangile, quand même, on voit le fruit simplement de tout ce qui est ressorti de cela. On est ici aujourd'hui, une partie pour cela. Le Saint-Esprit, l'effusion de l'Esprit de Dieu, c'est vraiment qui était répandu. Dans l'attente, ce matin, le Seigneur est en train de t'équiper. Dans l'attente, le Seigneur nous enseigne la patience, on a entendu tantôt. Il nous enseigne la patience. Jacques 5, 7. Dans Jacques 5, 7, il dit, « Soyez donc patient, frère, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre. » Voyez-vous simplement le fermier simplement qui est là, il attend, il anticipe, il a planté, il sait qu'il va avoir une récolte, ça s'en vient. Il a planté des tomates, ça va être des tomates, ça ne sera pas des patates. Il a planté des concombres, ça ne sera pas du blé d'Inde, ça va être du concombre. Que ce soit la chose, il s'attend à ce qu'il a investi, ce qu'il a planté, tout ça, il est dans l'attente. Et pour nous, simplement, il nous enseigne la patience dans l'attente. Simplement, c'est une attente, mais pas une attente que simplement que tu es juste là, C'est une attente dans l'anticipation, simplement qu'il y a quelque chose qui s'en vient, il y a quelque chose qui va être produit. Et toutes les prières des saints, toutes les prières qui sont montées devant le trône de la grâce, c'est une attente. Hein? Notre Dieu répond à la prière. Notre Dieu, simplement, il agit avec puissance au travers de la prière. Notre Dieu attend qu'on prie, qu'on intercède, qu'on vient devant lui avec des soupirs inexprimables parce qu'il répond. Mais c'est une attente, simplement, d'anticipation, un peu comme le fermier, simplement. J'ai semé des patates, bien, ils vont venir les patates. C'est juste un temps. J'ai semé des prières, j'ai semé par rapport à ça. Je prie pour mes enfants. C'est juste un temps. Ça va venir. Ça s'en vient. C'est là. C'est juste un temps encore. Qu'on peut s'encourager. C'est plus facile comme ça à dire. Qu'on peut s'encourager simplement dans la patience. Le Seigneur nous enseigne la patience. Dans l'attente, il nous montre la source de notre secours. Genèse 49, 18 nous dit, « J'espère en ton secours, ô Éternel. » J'espère, c'est « wait ». Lorsqu'on regarde à ces plusieurs versets qu'on regarde, ça parle de « espérer », mais lorsqu'on regarde la racine de ces mots-là, et on voit même dans la King James, mais si tu vois simplement, King James a vraiment plus adéquat, ça dit « wait », « attendre ». Nous autres, on dit, ah ben, j'espère qu'il va faire beau aujourd'hui. Puis là, tu lis, ah ben, j'espère en ton secours. Ce n'est pas la même connotation, c'est vraiment une attente. dans son secours. Il dit, j'espère en ton secours, ô Éternel. Et ça nous montre la source de notre secours. C'est beau de se rappeler, c'est qui la source de mon secours? On parle de, peut-être, on doit revenir, reshifter vers lui. Ça, l'attente nous montre la providence de Dieu aussi. Parmi les idoles des nations, en a-t-il qui fasse pleuvoir? Ou est-ce le ciel qui donne la pluie? Il dit, n'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Nous espérons en toi, car c'est toi qui as fait toutes ces choses. Jérémie 14, 22. Ça nous montre la providence de Dieu, même que la pluie qui tombe du ciel. Savez-vous simplement, pour nous, on ne porte pas attention à ces choses-là. Mais si vraiment dans certains pays que tu es un chrétien, peut-être un fermier, plusieurs d'entre nous, vous avez vu le film « Faith like potatoes », la foi comme des patates. Si vous ne l'avez pas vu, ça vaut à peine, mais ça demande juste une illustration qui est réelle d'un fermier qui est en Afrique, et là, simplement, c'est un temps de sécheresse, simplement. Et le fermier, qu'est-ce qu'il s'attend? Il s'attend à la pluie. Il prie pour la pluie. Il reconnaît que la pluie, ce n'est pas juste une question de météo et tout ça. C'est le vent qui apporte les nuages. Non, pour lui, le fermier, surtout le fermier chrétien, simplement, pour lui, il reconnaît que la provision vient de Dieu, que Dieu... Il doit envoyer sa pluie, et s'il n'envoie pas la pluie, c'est des temps de sécheresse. Il y a une dépendance. Elle nous reconnaît notre source de provision. Parfois, un de mes amis au Malawi, Adam Lwesha, qui est le surintendant des Holiness Church là-bas, et parfois il nous envoie un message, et lorsque c'est des temps de sécheresse, il dit « Priez pour notre pays ». C'est des temps de sécheresse qui veut dire que ça... Le blé et tout ça, il n'y a rien qui pousse, c'est sec, il n'y a pas rien qui... C'est des temps de famine et tout ça. Mais ils reconnaissent pour plusieurs que la pluie, la provision vient du Seigneur. Puis à moins que le Seigneur alloue simplement cette pluie-là, simplement, il n'y a rien qui va se passer. Et Jérémie nous parle, c'est qui ce qui donne la pluie? N'est-ce pas toi, Éternel, notre Dieu? Dans l'attente aussi, ça nous donne de l'espoir. L'attente, c'est bon. Et ce matin, puis ce verset-là revenait, le premier verset qu'on a lu, qui est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. Et il y a des choses qui sont produites. Ça donne de l'espoir. Psaume 33, 20, ça dit, « Notre âme espère en l'Éternel. My soul wait in the Lord. » Mon âme s'attend, c'est une attente. C'est comme, c'est là, ça brasse à gauche, à droite, ça brasse dans ta famille, ça brasse dans ton mariage, ça brasse peut-être des fois avec des frères et des sœurs, peut-être d'assemblée au travail, des choses qui brassent. Mais le psalmiste est capable de dire, mon âme, il s'attend en l'Éternel. C'est comme une connexion qui est là. Il dit, « Il est notre secours et notre bouclier quand notre cœur met en lui sa joie. Quand nous avons confiance en son saint nom. Éternel, que ta grâce soit sur nous quand nous espérons en toi. » Une grâce qui vient alors qu'on est dans l'attente. Une grâce de Dieu qui vient, ça nous donne de l'espoir, une grâce. Psaume 33, 20 et 21, 22, c'est une grâce simplement qui est là. Est-ce qu'il y a une grâce sur ta vie ce matin? Est-ce qu'il y a une grâce qui est là dans l'attente, qui est là? Et Seigneur, aide-moi à entrer dans cette grâce-là. Aide-moi à entrer dans cette faveur-là. Aide-moi, Seigneur. Dans l'attente aussi, l'attente nous sanctifie. Wow! Yep. L'attente nous sanctifie. Ça nous clean. Ça enlève les boubous, puis la cochonnerie, puis tout ça. Il le fait, mais il continue de le faire. T'hérite pas, laisse la colère, abandonne la fureur. L'attente nous sanctifie. Psaume 37:7, garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Keep silence before the Lord and wait on him. Espère en lui, wait. Attendre sur le Seigneur. Garde le silence. Hey, ça, c'est dur. Ah, mais j'ai le négro à dire. Puis il faut que je lui dise absolument. Hey, je me sens appointé du Seigneur pour lui dire. J'ai l'onction de Dieu pour parler de suite, pour lui dire ces quatre vérités. Comme ils savent des fois que c'est pas... Des fois, on est plus dans la chair que d'autres choses. Il dit, ne t'hérite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Oh, wow. Hey, c'est pas fair, lui, il a du succès. J'ai une sœur tout de suite au Life Reach qui nous a approchés vendredi d'une réunion de prière. Une sœur de l'Afrique. La famille a grandi dans les voies de Dieu, famille consacrée. Les enfants sont ici maintenant. Papa, maman sont au pays. Papa a du succès. Ça va bien financièrement. Il est capable d'envoyer les enfants aux études, puis lui, il voyage et tout ça. Mais ça fait un bout de temps. La maladie, des choses qui frappent, ils ne savent pas pourquoi. Et les docteurs disent qu'il a été empoisonné. Il y a du poison dans son système à l'heure que je vous parle. Une famille chrétienne. Et ce que les gens disent simplement, ils ne peuvent pas le confirmer à 100%, mais ils disent encore qu'il y a de la jalousie dans le village, il l'aurait empoisonné. Parce que lui, il a du succès. Seigneur, viens toucher ce papa-là. On priait avant notre Seigneur, viens toucher. La fille qui nous approche, c'est mon papa. Mais parfois, ça peut être la même chose. Il dit, ne t'hérite pas contre celui qui réussit dans ses voies. Parce que parfois, on peut même, lorsqu'on voit quelqu'un simplement qui réussit mieux que nous autres, parfois, on peut empoisonner par nos paroles. On devrait se réjouir lorsque quelqu'un a du succès. On devrait vraiment se réjouir lorsqu'une église a du succès. J'ai toujours dit depuis ma vie chrétienne, lorsque des églises dans nos régions, que ce soit l'endroit, si que le Seigneur commence à bouger, là, je vais me réjouir avec le peuple de Dieu, je vais être content pour cette assemblée, je vais me réjouir avec ça, parce que c'est l'œuvre de Dieu. C'est qu'on puisse se réjouir lorsque ton voisin, ta voisine qui a du succès, réjouis-toi, prie pour eux. Lorsqu'un frère, une sœur dans l'église, peut-être qu'il y a plus de succès de toi, que ce soit dans le département, réjouis-toi pour ce frère-là, pour cette sœur. Dis merci, sœur. Aide-le à se garder dans le succès. Aide-le à se préserver, de ne pas tomber. Il nous sanctifie contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Il dit, laisse la colère, abandonne la fureur. Mets la colère de côté. La fureur. Ne t'hérite pas, ce sera mal faire. Ah, lui, il mérite mon papier sablé. On a tous des papiers sablés. Puis des fois, je suis mon propre papier sablé moi-même. Je suis irrité par rapport à moi-même. Mais il dit, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Car les méchants seront retranchés et ceux qui espèrent, those who wait, ceux qui espèrent en l'Éternel vont posséder le pays. Dans la période d'attente, il nous sanctifie. Il me sanctifie, il te sanctifie. J'ai une petite impression ce matin que le Seigneur arrive nous sanctifier chacun d'entre nous. Dans l'attente, il nous fait revenir à Dieu. I don't like to wait, j'aime pas attendre. Mais c'est des périodes aussi pour revenir à Dieu. Osée 12:7. Livre de Osée, chapitre 12, verset 16, il dit, « Et toi, reviens à ton Dieu, garde la piété et la justice, et espère toujours en ton Dieu. » Wait on your God. Mais c'est un appel à revenir à Dieu. L'attente, si tu es dans une saison d'attente ce matin, le Saint-Esprit, il y a probablement comme 100% de chance qu'il est en train de m'appeler et t'appeler à revenir à lui. L'attente nous fortifie et ça nous donne un cœur affermi. Psaume 27, 14, il dit, « Espère à l'Éternel, wait upon the Lord. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Wait upon the Lord. » C'est ça. Espère en l'Éternel, fortifie-toi que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. » Dans un verset, on voit tout ça. Que un cœur affermi puis être fortifié. Le Seigneur, est-tu pas bon? Dans l'attente que je pensais qu'il ne se passait rien, il y a toutes ces choses-là qui sont en train d'arriver. Il est en train de me fortifier. Il est en train de me donner un cœur qui est affermi. L'attente nous conduit vers une confiance en Dieu. Ésaïe 8, 17 dit, j'espère en l'Éternel. I wait upon the Lord. J'espère en l'Éternel qui cache sa face à la maison de Jacob. Je place en lui ma confiance. Et il nous conduit vers une confiance en Dieu. Oh, Esprit de Dieu, t'es merveilleux. Dans tout ce temps-là, tout ce que je passe, tout ce que je vis, t'es à l'œuvre dans tous ces départements-là, dans tous ces endroits-là. En d'autres mots, j'attends pas en rien, pour rien. Il y a toute une œuvre de l'Esprit de Dieu qui est en train de faire. Il faut juste le reconnaître, le voir, et la parole de Dieu nous donne une lumière un peu, juste un petit, et ce message même ce matin, nous donne une petite lumière, simplement, qu'est-ce que l'Esprit de Dieu est en train de faire? Mais il fait encore bien plus grand que ça. C'est juste une petite portion ce matin qu'on peut voir. Dans l'attente, il nous donne des forces renouvelées. Il nous donne une plus grande perspective. Puis dans l'attente, c'est que les batteries ne se déchargent pas facilement. Les batteries ne se déchargent pas facilement. On voit ça de juste dans un seul verset, toutes ces choses-là. Force renouvelée, plus grande perspective, et les batteries ne se déchargent pas facilement. Ésaïe 40, 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces, les forces renouvelées. Ils prennent le vol comme les aigles. Ils ont une plus grande perspective. Ils voient les choses d'une autre perspective. Ils courent, ne se lassent point. Ils marchent et ne se fatiguent point. Les batteries ne se déchargent pas facilement. J'ai invité mon frère Robert juste à s'avancer ce matin. C'est bon, hein? T'as l'attente. Il est bon d'attendre dans le silence le secours de l'Éternel. C'est bon simplement juste de voir qu'on peut apprendre d'attendre le secours de l'Éternel, mais aussi d'apprendre des erreurs, peut-être qui sont au travers de la parole de Dieu, apprendre d'être ça, sortir plus sage ce matin, sortir plus de la connaissance de l'Esprit de Dieu, de la parole de Dieu, mais voir aussi les bénédictions de l'attente ce matin, simplement, alors qu'on est là. Il nous fortifie, il nous encourage. Es-tu dans une période d'attente dans ta vie ce matin? Prends courage, regarde à Jésus. Prends courage, regarde à Jésus. Dans l'attente, il nous équipe, il nous enseigne la patience, il nous montre la source de notre secours, il nous montre la providence de Dieu, il nous donne de l'espoir, il nous sanctifie, il nous fait revenir à Dieu, il nous fortifie, il nous donne un cœur affermi, il nous conduit pour avoir une confiance en Dieu, il nous donne des forces renouvelées, il nous donne une plus grande perspective et il recharge mes batteries. Allez, est-ce qu'on peut se lever ce matin? Ne tombons pas ce matin Ne tombons pas ou sortons du piège du compromis. Ne tombons pas ou sortons du piège d'oublier ses œuvres. Ne tombons pas ou sortons du piège de shifter notre dévotion vers les choses de ce monde. Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Ce matin, on va prendre la communion ensemble. Et on va prendre la communion dans cette attitude d'attente devant notre Dieu. Wait upon the Lord. Seigneur, je m'attends de toi. Et je prends cette communion, c'est comme cette alliance de mon cœur envers le cœur de Dieu. Seigneur, je m'attends à toi, Seigneur. Et je veux te remercier dans l'attente, peut-être qu'on devrait commencer de sachement de pardon, Seigneur. Je te demande pardon, Seigneur, peut-être que mes attitudes, peut-être que dans l'attente, Seigneur, j'avais perdu de vue la grandeur de Dieu. Mais Seigneur, je te prie de me laver ce matin, je te prie de me nettoyer ce matin, je te prie, alors qu'on va prendre la communion et parler au Seigneur, dit Seigneur, c'est une alliance que j'ai avec toi, une alliance que Dieu ne lui brise pas envers ses enfants. C'est une alliance qui est solide, l'alliance du sang de Jésus. Qui c'est l'amour de Dieu envers toi qui t'a racheté. Et cet amour-là n'a pas changé. On va prendre la communion. J'assume que les éléments sont là, sont prêts. Ce matin, on va s'avancer ensemble. On va prendre. Si les gens doivent s'asseoir sur les rangées en avant, c'est correct. Mais...